Agathe, bonjour Adam Bonitzer. Vous êtes présents tous les deux au festival du film français d'Helvétie pour Ma vie, ma gueule, le dernier film de votre maman qui nous a quittés l'année passée. Elle vous a passé le flambeau, elle a pu terminer le tournage et elle nous a quittés. C'était une lourde charge de reprendre le flambeau.
Bah, lourde et en même temps belle, et c'était aussi un très beau cadeau quoi qu'elle nous a fait. Donc c'était à la fois une mission et un cadeau.
Et quels ont été les échanges que vous avez pu faire avant qu'elle ne nous quitte pour savoir comment reprendre justement son travail et le poursuivre, puisqu'il y avait le montage, la sortie du film.
On a pu parler avec elle. Elle nous a laissé des indications plus ou moins sur des choses à la fois précises, d'autres un peu plus générales sur le film en entier, des choses voilà, formelles et de sens. Et elle a beaucoup parlé, elle a parlé une fois, mais très longtemps, avec le monteur François Kikré aussi. Et voilà, donc on est parti de ça. Et puis du tournage, du scénario qui était très précis. Et le tournage était très fidèle et au scénario. Et donc voilà, on s'est laissé guider aussi par les rushs, par le film qu'on avait à reconstituer.
Alors Agathe et Adam, en fait là vous êtes avec Agnès Jaoui, qui incarne l'alter ego de votre maman. En même temps, il y a toujours eu des femmes assez différentes dans sa filmographie, interprétées par exemple par Chiara Mastroianni ou par Emmanuelle De Vos, qui sont à la fois très différentes et il y a une similitude quand même. Vous pouvez nous en parler de cette féminité, de cette figure féminine qui traverse la filmographie de votre maman?
Cette similité qu'il y a entre les personnages, elle vient surtout de l'écriture, je pense, de notre mère et de sa vision, non seulement du cinéma, de la féminité d'une certaine manière, mais plus largement de ce que c'est qu'être et qu'être au monde et comment trouver sa place et comment exister et comment faire avec la difficulté de ne pas savoir vraiment qui on est, où est-ce qu'on va, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on dit aussi beaucoup, parce que c'est vraiment un cinéma aussi du langage et du silence aussi. Et du coup, effectivement, il y a vraiment un fil entre chacun des films, et ce fil, c'est vraiment l'univers mental et poétique de notre mère qui était très fort, très singulier, et qui était aussi le même dans la vie, quoi. C'est-à-dire qu'elle était la même. La manière dont ses héroïnes parlent dans ses films était la manière dont elle parlait dans la vie, quoi. Donc.
Adam ?
Non, est-ce que les films. Ce que tous ces films explorent, c'est en tout cas l'idée qu'être soi, ça ne va pas de soi. Voilà, c'est comme ça que je définirais en une petite formule.
Voilà, justement, je ne prends pas mon petit papier, mais j'avais écrit que votre maman avait affirmé dans une interview que cela prend du temps, ça se mérite de se connaître. Et c'était le cas, pour vous, c'est ce qu'elle a fait à travers sa filmographie?
Oui, enfin, chacun de ces films, avec plus ou moins de légèreté ou de gravité, explore cette recherche et finalement souvent ce mérite de savoir à peu près qui l'on est ou quelle est sa nature, pour citer Barbie Bichette dans Ma vie, ma gueule. Et avec ce film-là, peut-être c'est à un paroxysme un peu plus fort, quoi. Enfin. Parce que le trajet est peut-être encore plus abrupt et la découverte de soi est peut-être encore plus forte que dans d'autres films, je sais pas.
Ouais, c'est le film qui va sans doute le plus bas dans la dureté, la crudité, et le plus haut aussi dans une forme d'expansion,
apothéose.
Voilà,
de liberté,
apothéose, de joie en tout cas.
Alors justement, pour revenir au personnage que vous avez mentionné, Barbara Bichette, surnommée Barbie, à son grand dam, en fait, elle est dans une sorte de crise existentielle sur tous les plans, professionnel, sentimental. Même avec ses enfants, elle ne sait pas communiquer. C'était vraiment votre relation avec votre maman, de cette crise existentielle. Peut-être qu'il y avait aussi la maladie. Est-ce que c'était vraiment ce qu'elle avait envie d'exprimer, de travailler à l'écran?
Alors déjà, il faut préciser qu'elle n'était pas malade quand elle a écrit le film. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Mmh. Elle a écrit le scénario, elle n'était pas malade, quoi. Donc la maladie, étrangement, n'entre pas dans l'écriture du film. Alors une forme d'angoisse de la vie, de la vieillesse, de la mort en général, est présente dans le film. Mais ce n'est pas un film qui a été écrit à l'aune de la maladie.
Et c'est quelque chose qui traverse tous ces autres films aussi. Mmh. C'est juste que là, effectivement, c'est, comme disait Agathe tout à l'heure, c'est peut-être porté à son paroxysme. C'est, Oui.
Et quant à la relation avec les enfants, par exemple, bah, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fictionnalisé ou de plus inventé dans le film, enfin dans le film en général, je sais pas, mais en tout cas de ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que nous on était très proches de notre mère, on avait une relation voilà très bonne, on la voyait très souvent, on discutait énormément avec elle, alors que dans le film les enfants se détournent d'elle, donc ça c'était voilà c'était une manière aussi de mettre des obstacles dans le film, et puis aussi que ça soit plus fort à la fin quand il se rapproche d'elle et qu'enfin il la laisse partir, quoi.
Le film est divisé en trois parties. Pif, paf et youkou. Vous pouvez nous en parler, Adam ?
Le directeur de la quinzaine des cinéastes qui a sélectionné le film donc en ouverture a décrit le film comme donc étant en trois parties, une comédie, une tragédie, une épiphanie. Et voilà, c'est un peu ce que traduisent ces trois parties.
Ces trois chapitres.
Ouais.
Et il faut savoir aussi que ça, c'est une idée de départ qui était vraiment à l'origine du projet. C'est-à-dire que notre mère, elle avait toujours le titre de son film avant d'écrire. Là, ça a été le cas aussi, mais elle a eu le titre et les trois parties. Et elle savait d'emblée que ça serait un film chapitré, ce qui n'était pas le cas de ses autres films.
Oui, Agathe, je rebondis sur vos propos. Justement, à l'ouverture du film, on voit Barbie Bichette qui est en train de taper sur son clavier, qui cherche justement le titre, ces quatre mots. C'était ce fonctionnement justement qui permettait après la création et à l'imagination de galoper, de trouver d'abord le titre.
En tout cas, cette scène, c'est une scène qu'elle a sans doute bien connue, notre mère, dans l'écriture et dans les méandres aussi de l'écriture, les difficultés de la page blanche, même si c'est quelque chose qu'elle faisait en fait assez... Enfin, elle avait un don pour l'écriture, clairement. Mmh. Alors, elle écrivait plutôt lentement ses films, mais c'est surtout parce qu'il y avait des longues phases de non-écriture, et puis tout d'un coup, elle écrivait en deux jours beaucoup de pages, et puis après, elle s'arrêtait sur une virgule pendant deux semaines, et puis elle reprenait. Mais c'est un truc qu'on retrouve aussi dans d'autres films. Il y a une scène, justement, dans Un chat, où Chiara Mastroianni est devant son ordinateur, et... Elle est écrivain dans le film, c'est son métier.
Ouais, elle écrit, ouais.
Et elle se sent pas très inspirée. Puis d'un coup, elle a une inspiration et elle écrit souvent pour s'amuser. Des hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers. Et elle se rend compte que c'est évidemment le début de l'albatros de Baudelaire et elle est atterrée. Et pour moi, c'est un peu... C'est pas la même chose que... Mais bon, c'est un motif, quoi, disons.
Dans Un chat, tout le film est une... Et sur comment elle va retrouver l'inspiration, c'est ça qui déclenche le film, c'est qu'elle n'a plus d'inspiration et qu'elle n'a en fait quelque part plus d'inspiration à vivre. Et dans le film, ça passe par la rencontre avec le personnage d'Agathe, donc Anaïs, dans Un chat, un chat. Et voilà, et dans ce dernier film, la différence par rapport à la Belle et la Belle aussi, où ça passe aussi par une rencontre, c'est que là, elle trouve son chemin... toute seule, quelque part.
Oui, c'est une rencontre avec soi.
C'est une rencontre avec soi-même, oui.
Alors, je rebondis, vous avez mentionné La Belle et la Bête, vous y étiez. Et là, c'est justement ce questionnement sur des étapes de la vie, sur un âge, une tranche d'âge.
Vous voulez dire Ma vie, ma gueule ou...
Non, je voulais dire La Belle et la Bête.
La Belle et la Bête, oui, c'est une question.
Rencontre.
Effectivement, ça prend en compte le fait d'atteindre un certain âge, de se rencontrer soit plus jeune, de se... poser des questions sur les choix qu'on a fait ou pas fait. Voilà. Après, c'est un film qui est beaucoup plus... qui est, comment dire... Pas du tout plus léger, mais en tout cas qui est plus, sans doute plus... joyeux.
Et plus, oui, il est pas, plus joyeux.
C'est plus une comédie romantique, pour étiqueter bêtement le film. On est plus du côté de la comédie romantique.
Alors que Ma vie, ma gueule est plus...
tragicomique.
Plus tragicomique, plus ambivalent dans son rapport à la vie, dans son rapport au genre cinématographique dans lequel il évolue.
Et plus frontal.
Et en même temps plus frontal.
Plus frontal et plus brut, plus dru, pour citer les mots de notre mère. Et alors que La Belle et la Belle passe par une forme de fantastique, et puis même dans la forme, c'était très différent, parce que c'est un film qui est... Voilà, l'image est très travaillée... La caméra est posée. Dans Ma vie, ma gueule, on a une caméra qui est très proche du personnage, qui est portée.
Qui la suit. Qui l'accompagne.
Mmh.
Et par contre, aussi, vous avez mentionné ce travail avec le chef op, le chef monteur.
La chef op.
La, ah là, pardon.
Emmanuel Colino.
Voilà, et vous pouvez nous mentionner comment vous avez élaboré ce travail?
Ah non, vous voulez dire avec le monteur.
Le monteur, oui.
Le
ah,
monteur, pardon. Pas le chef opérateur.
Oui. Mais on peut mentionner toute l'équipe.
Non, pardon, j'ai, comme on parlait de la caméra, j'ai cru que vous rebondissiez.
Mais la chef opératrice était aussi là à l'étalonnage, donc après le montage, pour travailler sur l'image. Et non, mais avec, vous vouliez savoir comment s'est passé le travail avec François Kikré.
Le monteur.
Avec le monteur François Kikré. Et ben, on était voilà, tous les trois, Agathe, François et moi, dans la salle de montage. On a dérushé tout le film. Et donc c'était assez... En fait, c'était nouveau parce que nous, on avait vu très très peu d'images. On avait vu quelques rushs à l'hôpital mais avec notre mère, mais vraiment pas grand-chose. On n'était pas sur le tournage, à part on est vraiment passé. Donc on a un peu découvert le film comme ça, à travers les rushs, découvert Agnès, à quel point elle était géniale. Et voilà, on a commencé... Enfin, François d'abord a fait un ours, c'est-à-dire il a fait un premier montage avec toutes les scènes. On a ensuite visionné ce qu'il avait fait, il a fait ça tout seul. Il avait déjà il avait une très très bonne base, il a trouvé des super choses qui sont encore là. Et voilà, à partir de là, il a fallu...
trouver le rythme du film,
rythme, etc.
La... Créer, voilà, enfin sortir de cette matière un peu
l'essence
du film.
La substance moelle.
Voilà, exactement. Mais qui était quand même déjà très présente. Au tournage et dans les rushs, enfin, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, je connais pas très bien cette fabrication-là des films, mais le peu que je sache, c'est que parfois, un film se construit vraiment complètement au montage et que c'est très difficile, qu'on regarde les rushs, qu'on se dit « Ah merde, mais comment on va faire ?» Là, on a vu les rushs et on s'est dit « Waouh, ça va être bien, quoi !» Parce que d'abord, Agnès était géniale et puis parce que... Oui, les scènes étaient super, quoi.
Bah, c'est vrai, il paraît que Truffaut disait qu'on tournait toujours contre le scénario et qu'on montait contre le tournage. Et ben là, c'était vraiment l'inverse, en fait.
Oui.
C'était vraiment...
Ils ont tourné avec le scénario. Et on a monté avec le tournage
et, voilà.
Et le scénario.
Donc c'était une continuité. On a essayé d'être le plus dans cette continuité possible.
Avec une fluidité.
Avec une fluidité. Et voilà, la question de ne pas trahir le film, pas trahir notre mère, pas trahir le scénario, était très important. De toute façon, c'était en fait quelque part impossible de le trahir. Il fallait juste qu'on soit le plus dans sa lignée, développer son essence, rendre visible son essence, l'essence de son écriture, l'essence de sa mise en scène.
Et aussi, malgré la tragicomédie dont on parle, il y a une belle luminosité tout au long du film.
Ah bah oui, bien sûr, enfin, la noirceur ne va pas sans la lumière, en tout cas dans ce film. Et là, pour moi, ça s'équivaut, quoi. Enfin, vraiment. Et puis, il y a aussi énormément de scènes comiques. Enfin, on rit beaucoup.
Des scènes cocasses.
Dans le film, ouais.
Oui, et sans rien dévoiler, à la fin, la lumière l'emporte, quand même.
Est-ce que j'ose quand même dévoiler que, post-générique, il y a un arc-en-ciel ? C'était un clin d'œil que vous souhaitiez ?
C'était un clin d'œil, ouais, c'était un... Comment dire ?
Symbolique, en
tout cas. Oui, c'était symbolique. C'était comme un signe au moment du tournage, parce qu'évidemment, ce n'était pas prévu. C'est avéré qu'il y a eu un arc-en-ciel, que la chef opératrice a décidé de le filmer, de l'enregistrer, et sans savoir vraiment à quoi ça pourrait servir. Et c'est vrai que voilà, c'était comme un signe, effectivement, au moment du montage, quand on se posait la question de est-ce qu'on faisait quelque chose ou pas de cet arc-en-ciel, on s'est dit qu'à la fin, ça ferait un beau... Voilà, un beau signe pour nous, pour notre mère. Voilà.
Un message puissant.
Un message. Voilà. Un peu caché à la fin du générique.
Mmh. Oui, parce qu'on se doute bien que tout le monde ne le verra pas, malheureusement.
Mais c'est ce qui nous plaît aussi. Mmh. Ça le rend pudique.
Voilà.
Ceux qui veulent le voir ou qui le perçoivent, voilà, c'est un message supplémentaire. Mmh. Vous avez mentionné, Adam, au début de l'entretien, que ça a été très fort, la présentation, l'ouverture à la quinzaine des cinéastes. Après, vous avez eu des échanges, bien sûr. Comment avez-vous vécu cette quinzaine ?
Bah, plutôt très bien. C'était très émouvant, c'était assez surréaliste. Moi, déjà, c'était la première fois que j'allais à Cannes, donc effectivement, faire l'ouverture de la quinzaine avec tous ces gens, et ça, c'était beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup de gens qui connaissaient notre mère dans la salle, tous les gens qui avaient travaillé sur le film, donc c'était assez surréaliste. Et puis après, oui, faire le travail de promotion, de présenter, de faire des interviews, présenter le film, faire de la presse, tout ça était très fort et très intense. Mais joyeux aussi.
Et vous, Agathe ? Bon, vous, Agathe, Vous êtes déjà peut-être plus coutumière de Cannes?
Pas tant que ça, parce qu'en fait, j'étais allée l'année passée d'avant, parce que je faisais partie du comité de sélection de la quinzaine des cinéastes dans les courts-métrages. Mmh. C'est un hasard, mais pas du tout cette année. Et donc, du coup, j'avais été à Cannes l'année passée, mais pas du tout dans les mêmes circonstances, évidemment. Mais par contre, en revanche, j'étais très contente que le film fasse l'ouverture de la quinzaine. Pour moi, c'est vraiment une sélection géniale. Et ça avait vachement de sens pour moi que le film soit présenté à la quinzaine. Et en plus, à l'ouverture, effectivement, comme Adam l'a dit, c'était très fort. Il y avait beaucoup de gens de notre famille. Il y avait des amis de notre mère de très longue date, des amis de la Fémis. Et puis, il y avait l'équipe du film, des gens qui découvraient le film sur ce grand écran, en même temps qu'un public très 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 réceptif et des journalistes aussi très, enfin, très contents, quoi, très enthousiastes du film. Donc c'était un bon souvenir.
J'imagine que ça l'était aussi pour à la fois la presse et pour les festivaliers. Vous avez mentionné au début d'entretien justement qu'il y a une continuité à travers les images féminines, les femmes représentées dans la filmographie de votre maman. Elles méritent qu'on s'y penche encore plus. Parce qu'il y a vraiment une sorte de résonance à travers les films, des sortes de comme ça, de jeux de miroir.
Bah oui, d'ailleurs, à cette occasion, j'en profite pour dire qu'il y a un ouvrage qui est paru, qui s'appelle Sophie Filière, L'endroit de l'envers, une petite édition qui édite notamment des livres de cinéma et d'entretien avec des cinéastes. Bien sûr, Playlist Society. Le livre est vraiment... formidable, c'est des entretiens avec notre mère sur chacun de ses films. Et bon, pour Ma vie, ma gueule, c'est l'équipe de post-production, donc Adam et moi et tous les autres collaborateurs et collaboratrices et la productrice Julie Salvador qui ont répondu aux questions. Mais c'est vraiment super intéressant et justement, voilà, elle parle de son cinéma, de sa vision des choses et aussi de ses motifs récurrents. Et c'est vrai que pour moi, l'œuvre mérite d'être vue dans son entier parce que les films se font écho l'un l'autre. Et d'ailleurs, il y a aussi une rétrospective à la Cinémathèque française à partir de la semaine prochaine de tous les films de notre mère, y compris des courts-métrages inédits, voilà, du 16 au 23 septembre.
Vous allez accompagner, bien sûr.
On va accompagner, on va revoir tous les films à la Cinémathèque.
Par rapport à ce film, pour revenir au personnage de Barbarie Bigette, ça peut nous toucher tous, c'est universel. Elle se questionne, elle se dit encore combien de douches avant la mort. Ce questionnement, il vous parle aussi, même si vous êtes très jeunes tous les deux.
Bah oui, s'il y a bien un questionnement qui est universel, c'est la question de la mortalité. Donc effectivement, oui, moi ça me parle personnellement.
Oui, moi aussi, moi je m'identifie complètement. Pour moi, c'est toujours un peu réducteur quand les gens parlent du film en disant que c'est l'histoire d'une femme qui vit une crise de la cinquantaine. C'est aussi ça, mais je pense que cette histoire peut se raconter d'un personnage qui est plus jeune, plus vieux. C'est une crise existentielle plus que...
Oui, je pense que aussi de dire que telle personne ou tel personnage ou telle vit une crise de la cinquantaine, c'est peut-être aussi une manière de nous empêcher de voir qu'on peut tous vivre cette crise existentielle à n'importe quel âge.
Et sans être ni séparé ni divorcé, enfin, les doutes existentiels, ça peut survenir à n'importe quel moment, on le comprend. Et justement, ça c'est un message fort du film qui peut toucher tout public, toute génération confondue. Jusqu'à présent, quels sont les échanges que vous avez eus avec le public par rapport à Ma vie, ma gueule?
Très, très bienveillant et souvent très touché. En fait, les gens sont souvent très émus à la fin des projections. Et oui, beaucoup de gens nous disent qu'ils se reconnaissent complètement dans le personnage et que effectivement, on a tous en nous et toutes cette folie qui nous guette ou qui nous guette pas d'ailleurs, qui nous envahit. Et voilà. Et qu'est-ce que c'est être au monde? Bah, c'est être sur une crête. Et voilà. En tout cas, c'est ce que voulait notre mère. Elle voulait raconter une part de sa vie, sa gueule, de la vie, la gueule d'un personnage à un moment donné de sa vie, à un certain âge, dont la féminité est un petit peu émoussée, on va dire, en tout cas au regard de la société, mais aussi la vie, la gueule de tout un chacun, des hommes, des femmes, et des jeunes, des vieux. Enfin...
Adam ?
Non, oui, je suis complètement d'accord avec
vous. Très complémentaires tous les deux.
Ouais, et oui, non, c'est vrai qu'on a eu des retours de personnes de tous âges qui nous disaient qu'ils se, pouvaient totalement se, s'identifier au personnage de Barbie Bichette.
Et ce qu'on nous a beaucoup dit aussi, c'est, ça, ça fait vraiment plaisir, c'est que c'était un film qui trichait pas.
Authentique.
Très authentique, dont on sentait la, la sincérité, mais dans l'écriture, bien sûr, dans la, la description du personnage, mais même aussi dans sa forme, et puis dans la manière dont Agnès... Enfin, c'est beaucoup grâce à Agnès qui a accepté de se... totalement de se mettre à nu et de, d'être filmée comme ça de manière très frontale, au naturel, et qui donne tout pour ce personnage. Et c'est vrai que les gens nous disent souvent c'est, ça fait du bien de voir un film où ça triche pas, ça, on n'essaie pas de nous raconter autre chose que ce qu'on nous raconte. Voilà, c'est, on rentre dans le film voilà, d'une manière un petit peu parfois désarçonnante, enfin pour certaines personnes désarçonnante, parce qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de générique... on rentre de plein fouet comme ça dans un gros plan avec quelqu'un qui parle tout seul même. Mais du coup ça a le mérite effectivement d'être, d'être sincère quoi.
Sincère, authentique. Et il y a eu un travail important qui a été fait sur la tenue vestimentaire, les bijoux, même les chaussures. Fatanès Jaoui devait se prêter vraiment à porter ce que portait votre maman.
Oui, alors pas tous les vêtements, enfin, c'est quand même aussi un travail et aussi avec la, les apports de la costumière. Mais c'est vrai que notre mère avait une idée précise de comment elle voulait que Agnès soit habillée dans le film et très peu maquillée et qu'elle porte effectivement les bijoux qu'aimait notre mère. D'ailleurs, la bijouterie dans laquelle le film est tourné, c'était la bijouterie où elle achetait ses bijoux, c'est Monsieur Paris.
Mais oui, elle était habillée.
Il y avait des vêtements de notre mère et il y avait des vêtements quand même achetés pour le film.
Oui, bien
mais
sûr.
C'était notre mère qui pas a les pensé.
Non, mais c'était pas les vêtements de notre mère, mais c'est vrai qu'elle était habillée à peu près comme notre mère s'habillait dans la vie.
Oui, avec
de tous
les jours. Des baskets compensées. Voilà. Alors qu'Agnès, mais... au début, elle était là, genre, mais non, moi j'aimais pas de baskets.
Oui, mais finalement, elle,
finalement, elle a adoré. Elle d'ailleurs, elle a gardé les chaussures du tournage et elle les porte.
Et à un moment donné, le personnage de Barbara Bichette dit qu'elle a envie de stopper ce qui ne lui plaît pas, d'arrêter, d'aller à l'essentiel. Ça, c'est aussi un message très très fort. J'imagine que votre maman vous l'a transmis, d'aller à l'essentiel.
De toute façon, elle allait à l'essentiel tout le temps, quoi. Enfin, disons que elle trouvait l'essence de tout dans tout.
Oui, et... Oui. Non, mais c'était quelqu'un qui... Mais en même temps, elle pouvait trouver l'essentiel dans, dans les chemins de traverse aussi. Ça faisait un peu partie de son...
Et la poésie dans les petites choses ténues, anodines.
Exactement. Et dans... Voilà. Et dans une fidélité à soi-même aussi. Je pense que c'est ça, oui.
Oui, et puis c'était la... Comment dire justement, le conflit qu'il y a avec soi et avec le monde en général qui produisait une forme d'essence, de possibilité d'être et un fil conducteur quoi, de l'existence. Et pour les poèmes, bah, elle écrivait d'ailleurs des poèmes.
Dans des endroits incongrus comme...
Probablement, oui.
Ah oui, oui, elle écrivait...
Elle allait dans des taxis.
Dès qu'elle avait une idée, elle les écrivait pas... elle les écrivait sur son téléphone.
De téléphone.
Donc, et elle nous les envoyait souvent par texto, c'était super.
Là, vous êtes présent en Suisse, vous avez d'ailleurs la veste assortie au festival du film français.
C'est pas fait exprès.
Ah, c'est pas fait exprès, mais alors voilà.
Ben
oui, vous êtes synchronisé.
C'est une veste à Rouen où on a présenté le film. Et Adam, il porte le t-shirt du festival.
Voilà, donc du film français d'Helvétie. Vous êtes heureux d'être là, j'imagine, pour présenter le film. On va d'ailleurs après vous quitter pour que vous alliez présenter au public. Quelle est votre relation avec la Suisse et le cinéma suisse ?
Le cinéma suisse, je le connais assez peu, je dois dire. Enfin, bon, je connais Godard, bien sûr, Alain Tanner.
Daniel Schmitt.
Daniel Schmitt, c'est vrai, suisse-allemand.
Qu'on a découvert au FID,
Festival de Marseille,
du film Marseille. Cette année.
Ursula Meyer, que vous connaissez ?
Bien sûr, ouais, Ursula Meyer. Et la Suisse, moi, j'y suis venue plusieurs fois, notamment pour présenter des films. Et j'y suis venue aussi cette année déjà. J'ai fait une petite tournée en Suisse où j'ai joué au théâtre. Et voilà, je suis toujours ravie d'être
ici. Dans quelle pièce ?
Une pièce mise en scène par Michel Faux, qui est une pièce des années 50 qui s'appelle « Lorsque l'enfant paraît ». ». pièce d'André Roussin. C'est un boulevard, un gros boulevard avec Catherine Fro.
Alors, on doit vous quitter rapidement. Enfant de la balle, puisque votre papa, c'est Pascal Bonitzer, Sophie Villière, c'était une évidence que vous soyez... Parce que des fois, il y a une réaction contraire. Vous, le 7e art, le monde de l'art, c'était une évidence?
Oui.
Pardon? Oui, pour moi aussi. Ouais.
Voilà. Merci Agathe, merci Adam. Bon film.
Merci.
Merci.
Merci Thérouse.
Ouais, je te montre juste là.